Bienvenue sur l'Espace du Cœur, le podcast qui invite à suivre les élans du cœur pour faire éclore un monde meilleur. Je suis Laetitia et on se retrouve pour l'épisode numéro 3, aux côtés d'une personnalité inspirante. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lou Gasquet, une femme qui m'inspire beaucoup et que j'ai découvert récemment. D'ailleurs, je tiens à remercier Pêche, du compte Pêche Églantine, car c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir et rencontrer Lou. Avec Lou, nous avons plongé dans son approche qui mêle à la fois psychologie, neurosciences et spiritualité. Une conversation où l'on a abordé différents sujets tels que l'estime de soi, le syndrome de l'imposteur et même de poterie. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute sur l'Espace du Cœur. Coucou Lou, merci beaucoup pour ta présence sur l'Espace du Cœur.
Merci à toi de m'avoir invitée.
C'est vraiment un plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et un peu plus aussi sur ton activité ?
Je suis Lou. Au niveau de mon activité professionnelle, je suis psychologue, coach en neurosciences, donc l'utilisation du cerveau, et praticienne chamanique. Donc j'ai vraiment dans mon expérience à la fois la psychologie, les neurosciences et la spiritualité beaucoup en ce moment. Voilà.
Et par rapport à ton parcours, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Ouais, je me suis très vite dirigée vers la psychologie. Pour moi, ça n'a pas trop été un doute. Ça a plus été un doute au niveau de mes capacités parce que j'ai eu quand même pas mal d'échecs scolaires. Ça a été compliqué scolairement parlant. Mais voilà, la psychologie pour moi, c'était un peu la base et c'était une attirance comme ça. Je savais que c'était ça. Voilà, je me suis dirigée vers la psychologie et puis par la suite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'encore plus et puis je suis quelqu'un qui adore apprendre. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Moi, je vais toujours vers ce qui me fait vibrer. Donc, je continue toujours d'apprendre. Et voilà, je me suis spécialisée en neurosciences. Après, j'ai fait plein de belles découvertes sur la spiritualité. Là, c'est plus mon parcours personnel qui m'a permis d'avancer un peu là-dessus. J'ai eu des passages plus compliqués dans ma vie où je me suis rendu compte que finalement la psychologie, ça avait pas, j'aime pas ce mot, mais ça avait pas suffi. Enfin, voilà, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et du coup, je me suis ouvert à l'énergétique, au spirituel. Et là, j'ai découvert plein de belles choses et ça a impacté ma pratique, bien évidemment.
Parce que c'est vrai que sur ton site, j'ai pu voir que tu étais formée aussi aux neurosciences, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ?
Oui, totalement. En fait, les neurosciences, moi, ce qui me passionne dans les neurosciences, c'est que, si tu veux, il y a vraiment un aspect où on vient utiliser notre cerveau à bon escient et on vient communiquer avec notre inconscient. Souvent, on voit plein de méthodes, comme par exemple en PNL, où on vient comme vouloir contrôler l'inconscient. Et moi, j'aime moins ces aspects-là et j'aimais beaucoup la neuroscience parce que je trouve que ça apporte beaucoup de puissance et de fluidité dans les accompagnements que je peux faire et que tout ce que je peux proposer dans le sens où je viens permettre aux gens de communiquer mieux entre l'inconscient et le conscient, de communiquer mieux entre ces deux parties-là pour que, au final, notre cerveau et toutes les parties de notre cerveau consciente comme inconsciente soient là en support pour notre réalisation et qu'il n'y ait pas un qui mette barrière à l'autre parce que il y a des blocages, parce que il y a des choses qui sont pas fluides. Et je trouve que la neuroscience pour ça, c'est vraiment parfait. Donc je me suis formée avec David Lefrançois à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris et je continue d'ailleurs à me former là-dedans. Là je fais mon deuxième master cette année avec eux et ouais, donc j'aime beaucoup beaucoup ça.
Donc aujourd'hui dans tes accompagnements, tu utilises la psychologie, donc ce que tu as pu apprendre au niveau universitaire, et tu rajoutes cette petite touche neuroscience que tu as pu apprendre et que tu continues à apprendre aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Moi en fait dans ma pratique, je rajoute tout ce qui m'a touchée dans mon parcours personnel parce que c'est aussi j'ai aussi fait des belles transformations avec eux hein et avec tous les outils, les choses un peu plus méthodiques etc. qui m'a transmis et c'est vrai que moi j'ajoute vraiment à ma pratique tout ce qui m'est cher, tout ce qui m'a permis d'avancer et tout ce qui me fait vibrer. Donc peut-être qu'il y aura encore d'autres choses par la suite, mais pour l'instant c'était vraiment ça. Je suis partie sur la psychologie plus au niveau universitaire, ensuite la neuroscience et puis ensuite aussi tout ce qui est plus spirituel. J'utilise ces trois facettes-là tout le temps dans mes accompagnements, peu importe la personne que j'ai. Et après, selon ce qu'elle rencontre, plus ou moins intuitivement, je vais me diriger vers certains outils, tu vois, s'il y a vraiment des croyances qui sont implantées depuis très très longtemps dans le système de fonctionnement de la personne, s'il y a des patterns d'auto-sabotage, des choses comme ça, je vais beaucoup utiliser la neuroscience parce que je sais que c'est très puissant pour enlever les croyances limitantes qui sont implantées sur beaucoup d'années. Ça va vraiment dépendre de la problématique pendant la séance qu'on va traiter ensemble.
Ok. Et quand on vient te voir, est-ce que c'est pour des questionnements similaires, est-ce que voilà, tu arrives un peu à voir les personnes qui viennent vers toi?
Souvent, les personnes qui viennent vers moi, mais je pense que c'est l'énergie que je dégage. Elles ont envie vraiment de se reconnecter avec elles-mêmes. Elles ont vraiment envie de plonger en elles et d'être beaucoup plus ancrées, en fait. Et quand je dis ancrées, c'est pas juste être pleinement présente, c'est vraiment réaliser tout ce qu'elles ont à réaliser dans cette vie, dans l'ici et maintenant. C'est aussi ça, être ancrée, tu vois. Donc, elles viennent surtout me voir pour ça. Après, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir aussi, qui sont dans des moments de leur vie où elles angoissent beaucoup, où il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ça peut arriver aussi. Souvent, je pense que c'est pareil, c'est par rapport à l'énergie que tu renvoies, tu vois. Je peux renvoyer parfois quelque chose de très calmant. Et donc, du coup, ça peut pas mal attirer le type de problématiques et de thématiques. Mais voilà, en règle générale, c'est vraiment des personnes qui veulent avoir un renouveau dans leur vie, avoir une belle transformation, passer d'un point A à un point B. Elles sentent qu'il y a un tournant, en fait.
Ouais, c'est intéressant. Et tu sais, autour de tout ce qui peut être anxiété, angoisse, moi, dans mon parcours personnel, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui m'a permis de me tourner vers l'accompagnement. Et cette période, elle est intéressante parce que autour de moi, beaucoup de personnes peuvent ressentir beaucoup d'anxiété, même moi, hein, parfois, ça m'arrive aussi. Et je voulais voir avec toi si tu avais des conseils pour cette période un peu particulière. Comment faire ami en quelque sorte avec cette anxiété-là et comment plonger en soi?
Ouais, je pense que la première des choses, c'est justement de pas vouloir être dans le rejet. Souvent, on a tendance à vouloir être dans le rejet de ces sentiments, de ces émotions-là. Et en fait, c'est ce qui provoque encore plus d'anxiété, tu vois. C'est un peu comme l'inconscient, c'est un peu comme un enfant. Hein. Les émotions, c'est pareil, c'est un peu comme un enfant. Si tu l'écoutes pas, il va pleurer encore plus fort. c'est ça, poser pour écouter. Et je pense que quand on est vraiment dans un cas d'anxiété, d'angoisse, c'est quand même bien de consulter. Les trois quarts, enfin moi, honnêtement, ce que j'observe, les trois quarts du temps, les personnes qui se retrouvent dans des moments comme ça, et surtout dans la situation actuelle, c'est juste qu'en fait, ils sont seuls avec eux-mêmes et donc des choses qui jusqu'à maintenant étaient cachées remontent un peu. Et quand on se penche un peu plus, on s'aperçoit qu'en fait, les problématiques qui sont derrière l'anxiété ou le stress, c'est des choses qui sont là depuis longtemps, c'est des thématiques qui sont là depuis longtemps mais qu'on a ignorées, qui sont un peu envenimées. Et en fait, généralement, c'est très ciblé, c'est très localisé. Et parfois, ça peut paraître surprenant en fait. C'est comme s'il y avait un barrage. Je dis tout le temps ça surtout pour les troubles de l'angoisse généralisée. L'angoisse généralisée, c'est qu'on va commencer à avoir l'angoisse, mais pour tout et pour rien. Et moi, je présente toujours ça comme avec l'analogie d'un barrage. Tu vois, si la pression, elle est trop forte, parce que on veut trop mettre de barrières par rapport à nos émotions et à ce qu'on vit, il faut bien que les émotions sortent pour notre équilibre à nous. Et donc, comment elles vont faire? Elles vont créer des petits trous dans le barrage qui va faire des petites fuites de partout. Donc tu vois, on va commencer à avoir de l'angoisse pour ci, puis de l'angoisse pour ça, puis de l'angoisse pour ça. Des choses qui n'ont rien à voir, qui sont complètement étalées dans tous nos domaines de vie. Et en fait, c'est juste parce que pour pas que ça se brise totalement, il faut des petites fuites. Un mécanisme finalement psychologique qui permet de descendre la tension. Donc le mieux en fait, c'est d'aller de l'autre côté du barrage, plonger dans l'eau et puis voir un peu ce qui s'y passe, quoi, pour que la circulation en tout cas devienne plus fluide.
Ah ouais, c'est super intéressant parce que de voir ça comme ça, finalement tu fais un peu la paix avec ton anxiété, même si je sais que c'est hyper difficile de dire ça quand on est en plein dedans. Vraiment, le fait d'avoir vécu, ça a été très difficile. Et en même temps, comme tu dis, c'est peut-être un moment de... où voilà, où on se pose et on se dit « Ok, qu'est-ce que mon âme vient me dire ?» Et voir ça un peu voilà comme un signal.
Ouais, c'est ça, totalement. En fait, notre corps nous parle tout le temps. Et quand on ressent de l'anxiété, pour moi, ce que j'observe en tout cas, c'est vraiment un grand décalage entre ce que notre âme souhaite expérimenter sur cette terre et ce qu'elle vit aujourd'hui. Et voilà, beaucoup aussi de blessures, etc. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, je trouve ça très intéressant. Le fait de plonger un peu dedans et de se faire ami avec elle, en fait, quand on a de l'anxiété, on se sent fragile. Et c'est un peu comme si on sentait que on peut pas. tu vois, on peut pas plonger là-dedans, putain, on n'est pas capable. Et ça fait flipper. Et donc, t'es accompagnée dans peut-être un peu plus, comme si tes émotions étaient un peu plus, c'est pas plus douce, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un support, il y a un cadre, il y a un truc dans lequel tu te sens contenu. S'il y a des choses qui explosent, tu te sens contenu. Et je pense qu'en fait, c'est ça la difficulté quand on est dans cette période-là. C'est qu'on se sent fragile, du coup, on n'a pas envie d'aller plonger dedans. Alors que pourtant, sur le long terme, c'est vraiment ce qui peut être salutaire.
Ouais, mais totalement. Et tu vois, ça me rappelle vraiment quelque chose. Quand j'étais dans cette période, donc c'était il y a, je dirais, 3 ans, j'étais sur Paris. Et donc voilà, je vivais vraiment cette anxiété généralisée. Et j'avais l'impression d'être folle, quoi. Tu vois, j'en parlais autour de moi. Les gens, ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. Parce que c'était vraiment sans raison. Et j'étais allée voir une dame, donc à ce moment-là, une psychiatre, et qui m'avait dit « Mais Laetitia, tu n'es pas folle. » Et en fait, juste le fait qu'on me dise « Tu n'es pas folle », c'est vraiment, ben voilà, c'est un trouble de l'anxiété généralisée. Ça m'avait déjà apaisée, tu vois. Je m'étais dit « Ok, déjà, je suis pas folle, ça se passe vraiment en moi. » Et à partir de là, j'ai pu, voilà, faire ce cheminement vers « Ok, qu'est-ce que cette anxiété peut m'apprendre ? Qu'est-ce que je peux en tirer comme enseignement ?» Mais c'est vrai qu'avant ça, j'étais un peu en lutte contre ça. Je voulais pas l'avoir. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, de vraiment déjà d'en parler, de pouvoir, voilà, être soutenue. Ben, c'est déjà un très grand pas, en tout cas pour moi, et je pense que toi, à travers ces accompagnements, tu peux le voir, ça aussi.
Ouais, mais c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Tu dis à toutes les personnes qui nous écoutent, si vraiment, parfois, vous êtes dans ces passages-là, ou même tout le temps, voilà, comme l'a dit Laetitia, vous n'êtes pas folle, loin de là, et c'est bien de le dire, et c'est bien de se sentir soutenue, et ça fait, tu vois, c'est comme si, du coup, tu t'es sentie assez rassurée pour faire le premier pas.
Ouais, carrément. Donc voilà, c'est pour ça, c'est important, je pense, en cette période un peu challengeante pour beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est important de dire, voilà, faut pas hésiter à en parler. Il y a plein de personnes qui sont là pour ça, et savoir, voilà, qu'il y a toujours une oreille qui peut être tendue pour nous. J'aimerais aborder avec toi le thème de la confiance en soi, qu'on avait déjà abordé ensemble. Et j'avais adoré ton approche où tu parlais aussi d'amour de soi, d'estime de soi et d'image de soi.
C'est tellement important. Ça, tu vois, on parlait des neurosciences tout à l'heure, c'est des choses qui m'ont beaucoup été transmises en neurosciences et pas assez en psycho, je trouve, et qui sont pourtant tellement importants parce que dans le domaine du développement personnel, on fait beaucoup de confusion entre l'estime de soi, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, souvent, on en parle comme étant l'estime de soi. Tu vois, on mélange les deux. Alors qu'en fait, la confiance en soi, c'est juste une petite partie de l'estime de soi. Et donc, il y a plein d'autres choses à explorer. Et souvent, quand on se penche, on se dit « Ah, mais en fait, mon problème, c'est peut-être pas la confiance en soi, c'est peut-être autre chose. » En fait, si tu veux, l'estime de soi globale, elle est composée de 3 choses. De l'amour de soi, je m'aime de manière inconditionnelle, détachée des performances. L'image de soi, c'est je connais mes potentialités, mes points de travail. Parfois, on vit comme un décalage entre l'image que les gens ont de nous et l'image qu'on a de soi-même. Tu vois, c'est parfois quand on te dit « Mais toi, t'es trop forte dans ça et dans ça » et que toi, tu te sens pas du tout forte, tu vois, comme un décalage ouais. Au niveau de l'image de soi. Et puis, la confiance en soi, c'est plus... peu importe les merdes qui vont m'arriver sur mon chemin, je sais que j'ai les ressources pour continuer à avancer. C'est t'as la grande montagne et tu sais que t'as les ressources pour la grimper, cette montagne. Donc tu vois, finalement, la confiance en soi, c'est une toute petite partie. Et généralement, je relève que quand on parle de confiance en soi, les 3/4 du temps, on parle de l'estime de soi globale et qu'il y a plein de choses aussi à travailler au niveau de l'amour de soi et de l'image de soi.
C'est super intéressant. Et par exemple, si on voudrait travailler l'amour de soi, est-ce que tu aurais des conseils ?
Ouais, c'est tellement... Enfin, l'amour de soi, le fait de s'aimer de manière inconditionnelle, tu sais, sans rien faire, c'est tellement... moi, je trouve que c'est le socle, donc c'est bien que tu le poses en premier comme ça. On a l'amour de soi, l'image de soi est plus belle et la confiance en soi est plus belle aussi. Tout ce qu'on fait est plus beau avec l'amour de soi. Et il y a ce côté-là dans la société où on se mesure un peu à nos réussites et on se mesure aussi à nos échecs. Alors qu'en réalité, prenons par exemple des enfants, des bébés, des nourrissons, ils font rien. Et pourtant, tu les aimes de manière inconditionnelle. Et en grandissant, tu te mets des trucs ou il te faut des trucs pour être aimé, tu vois. Il faut faire des choses pour être aimé, il faut réussir des choses pour être aimé. Et ça, c'est hyper particulier, hyper profond, c'est bien implanté dans notre société, malheureusement. Il y a vraiment un truc, moi, je trouve, au niveau de comment on vit l'échec, comment on vit le succès. Et quelque part aussi, le fait de se pardonner beaucoup. J'ai pu remarquer, moi, dans ma pratique, que les gens qui sont très touchés au niveau de l'amour de soi, qui ne s'aiment pas de manière inconditionnelle, il y a comme des blessures, des événements de vie où ils se pardonnent pas eux-mêmes. Tu vois, c'est pas tellement pardonner aux autres, c'est plus se pardonner à soi-même d'avoir accepté certaines choses, se pardonner à soi-même de pas avoir pu se protéger de ça, de cet événement. Enfin bref, il y a plein de choses en ligne de compte là-dedans. Hein. Mais ouais, vraiment travailler sur ses blessures, se pardonner, et puis ce côté-là, échec et succès aussi à travailler.
Ouais, mais tu vois, c'est vrai qu'on parle beaucoup du pardon qu'on peut se faire à soi, mais parfois on se dit « ok, c'est bon, je me suis pardonnée » et on passe à autre chose, mais en fait ça s'est fait seulement à un plan mental. Et j'ai fait une technique, moi, de pardon, je sais pas si tu connais, ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. C'est une technique, en fait, de pardon qu'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres. Et en fait, tu viens dire « pardon, je suis désolée ». Merci et je t'aime. Et en fait, c'est tellement fort parce que ça vient vraiment à la base, à la racine de ce qu'on a pu se faire subir à nous-mêmes. Et moi, je sais que dans mon expérience personnelle, je me suis fait beaucoup de mal à moi-même, notamment à mon corps. Et le fait de m'être dire, ben voilà, Laetitia, je te demande pardon, je suis désolée pour ce que je t'ai fait subir, merci beaucoup d'être encore là et je t'aime de tout mon cœur et je t'aime de manière inconditionnelle, ça a été une vraie libération.
Ouais, j'ai des frissons partout quand tu le dis. C'est super beau, ça me fait penser aussi à des exercices que je fais plus du côté pratique chamanique où effectivement la puissance des mots est très très forte. Et c'est vrai, comme tu le dis, en fait, on a tendance à se pardonner sur un plan mental, mais pas sur un plan plus profond. Et pas aussi sur un plan de l'inconscient. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, là, c'est plus au niveau des neurosciences, mais notre cerveau, la capacité qu'il peut traiter au niveau des pensées inconscientes est bien plus importante que des pensées conscientes. Donc autrement dit, si dans ton conscient, t'as « je me pardonne », mais que dans ton inconscient, t'as « je suis, par exemple, une personne mauvaise » ou « je suis mauvaise avec moi-même » ou « je ne m'aime pas », tu vois, au niveau du ratio, tu peux comparer le conscient à un Lego et l'inconscient à une tour Eiffel. Dans ces cas-là, quand c'est très très implanté, la puissance des mots, comme tu l'as dit là, très belle chose. Et puis voilà, moi j'utilise aussi de la neuroponcture. C'est une technique psycho-énergétique où on vient solliciter à la fois le cerveau, à la fois les points énergétiques du corps, et en même temps, moi je viens avec les pratiques chamaniques nettoyer des choses. Donc voilà, je fais un petit mélange comme ça, mais qui est hyper puissant. Donc c'est important, comme tu dis, en fait, d'aller voir dans l'inconscient qu'est-ce qui se passe.
Ouais, mais c'est vraiment cette approche holistique, que finalement on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un mental, il y a d'autres plans à aller toucher. Du coup, oui, pour en revenir, on a fait l'amour de soi. Donc voilà, l'idée de vraiment s'aimer de manière inconditionnelle.
Et ça donne lieu à un respect. Parce que comme on se maltraite au quotidien, ne serait-ce qu'avec notre rythme de vie. Enfin, moi, je vois mon rythme de vie d'avant et je me dis, oh, mais c'était hyper maltraitant. Est-ce que j'infligerais ça à mes animaux? Est-ce que j'infligerais ça à un enfant? À quelqu'un que j'aime inconditionnellement? Est-ce que j'infligerais ça? Bien sûr que non, tu vois. Et quand on renforce l'amour de soi, ça donne aussi lieu à un beau respect de soi-même et de son corps, de son rythme et de tout, en fait.
Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment la base, quoi. Le socle pour pouvoir ensuite aller toucher... d'autres aspects. Tu sais, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Pour toi, le syndrome de l'imposteur, donc le fait de pas se sentir légitime à faire les choses, comment on peut le dépasser?
Ouais, si c'est très ancré, généralement, en fait, ça prend source dans des choses très profondes. Donc, c'est bien d'être accompagné pour le syndrome de l'imposteur. Après, de manière générale, je pense que l'estime de soi globale, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi, quand on vient remonter tout ça et faire et construire des bases solides, le syndrome de l'imposteur, du coup, il en prend un sacré coup, déjà. Et ensuite, je pense, c'est d'aller explorer les croyances. Parce qu'en fait, on a un système de croyances limitants, et souvent, dans le cadre d'un syndrome de l'imposteur, souvent, on a un système de croyances associées. Donc, les systèmes de croyances associées, c'est des croyances qui sont très profondes, nombreuses. On en a environ 12 sur un système de croyances associées. Et qui viennent s'alimenter les unes les autres. Donc là, c'est hyper important d'aller plonger dans ces croyances et de se dire, ok, qu'est-ce que ça m'évoque en fait, ce fait-là, de ne pas me sentir légitime. On va creuser, creuser, creuser très très profond. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de croyances limitantes qui s'alimentent les unes des autres et qu'il faut aller nettoyer pour pouvoir justement apaiser ce système-là qui prenait source dans le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère.
Oui, oui, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de croyance limitante et de voir voilà comment faire ce processus pour pouvoir dépasser?
Moi, tu vois, je regarde sur les personnes que j'ai eues. J'ai une personne notamment qui ressentait ce syndrome de l'imposteur. Et quand on allait creuser, on s'est rendu compte que déjà par rapport à elle-même, elle se sentait pas légitime parce qu'elle avait eu des problèmes de santé et que pendant un moment, si tu veux, elle a été un peu coupée de la société. Du coup, elle se pensait un peu comme, comment on dit, un peu comme dépassée, tu vois. Un peu comme si elle était coupée de la société et qu'elle pouvait pas y être mêlée. Et quand on a penché aussi sur les autres, il y avait beaucoup... En fait, je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien pour la société. Donc là, il y avait pas mal l'amour de soi, tu vois, ou ça peut être aussi l'image de soi pour le coup. Mais c'était je suis pas assez bien pour la société, donc je suis pas légitime en fait pour aller par exemple aider les gens, ce qui était son métier. Et une fois que t'as identifié ça, tout va dépendre de la puissance de la croyance. Moi, sur des petites croyances, par exemple, on prend une croyance qui est je suis pas assez bien pour la société. Et quand on l'auto-évalue, si cette croyance, elle est petite au niveau limitant, c'est-à-dire qu'elle se situe genre entre 1 et 3, tu peux avoir des processus où tu vas modifier. Alors, c'est très technique, je peux pas l'expliquer là, parce qu'en plus, si c'est mal fait, ça pourrait même porter à l'inverse, porter un peu préjudiciable. Donc voilà. Mais tu peux changer la phrase avec des processus qui vont te permettre de transformer la croyance limitante en une croyance ressource. Et après, si on est sur des choses beaucoup plus installées, c'est-à-dire que la personne, elle me dit, non, mais moi, cette croyance-là, finalement, je m'aperçois qu'elle me guide un peu dans tous mes domaines de vie, ou en tout cas, elle est à beaucoup plus qu'à 3, à ce moment-là, on part sur des processus d'accompagnement avec des techniques, par exemple la neuroponcture, où on est beaucoup sur le psycho-énergétique, tu vois. Donc sur les croyances qui sont petites, je dirais qu'on peut un peu plus s'en défaire tout seul. Et puis, tu sais, il y a aussi, on a beau parler de toutes ces techniques, il y a aussi le passage à l'action et les actes de foi. Moi aussi, tu vois, tous les jours, j'ai des croyances limitantes auxquelles je suis confrontée dans mon activité. Et en fait, à un moment donné, bah, je les traite pas toutes comme ça. À un moment donné aussi, je fais des actions qui vont à l'inverse des croyances limitantes pour prouver à mon cerveau, à mon inconscient et à mon âme. En fait, voici la croyance limitante et voici pourquoi c'est pas fait, parce que là, c'est pas vrai. Je viens de le faire et ça s'est très bien passé. Pour apaiser aussi un peu le système inconscient. C'est pas facile, hein. C'est vraiment, c'est un peu comme si tu sautais d'une falaise, hein. Mais on te rattrape toujours à la fin.
Carrément. Mais Lou, c'est tellement ça. Et en fait, ce podcast, il est là aussi pour ça. C'est vraiment de passer de l'idée à l'action. Et finalement, c'est l'action qui va nous permettre de dépasser toutes ces croyances-là. Comme tu dis, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça que parfois, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui permet de voir ces croyances-là. Parce que parfois, en fait, on a des croyances qui sont tellement profondément ancrées en nous depuis l'enfance que c'est difficile de les voir. En fait, c'est comme si ça faisait partie de notre vie et elle nous représentait. Alors que quand on est accompagné, c'est un peu comme un miroir et on peut se rendre compte que « Ah ouais, en fait, je savais pas, mais j'ai plein de croyances limitantes. » Et dès qu'on peut voir ces croyances-là, c'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir passer à l'action pour pouvoir alchimiser ces croyances-là et pour pouvoir petit à petit s'en débarrasser.
Ouais, moi c'est trop intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plein de choses. Effectivement, en fait, le fait de passer à l'action, le cerveau il va dire ah mais en fait ça se passe bien. Et plus tu vas cultiver des expériences comme ça, plus ton cerveau va dire bah ok ça se passe bien. On peut même avant de passer à l'action pour fluidifier un peu les choses, on peut visualiser. Si on fait des très bonnes visualisations, c'est en fait quand tu te visualises dans ton corps et non à l'extérieur. Et quand tu touches à tes sens, c'est très important d'aller toucher à l'émotionnel dans les visualisations et au sens. Donc, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu touches, quelles émotions tu ressens. Et en fait, si tu vas visualiser par exemple 3 à 5 fois, ton cerveau ne fait pas la différence entre une vraie expérience et une fausse expérience. Et donc, tu vas pouvoir comme ça le guider. Donc, par exemple, là, sur le fait de se sentir légitime, bah, si par exemple, c'est le fait de se sentir légitime, je sais pas, moi, je prends quelqu'un qui veut faire dans le domaine du soin énergétique, eh ben, il se visualise en train de faire ses prestations, en train d'avoir des beaux retours, etc., en train de faire ses soins. Et en fait, le cerveau va capter ça comme une réelle expérience. Et au bout d'un moment, il va s'apaiser parce qu'il va comprendre qu'à chaque fois, ça se passe bien. Donc ça, ça peut être un bon truc aussi pour les gens qui nous écoutent, pour commencer à les guider. Et puis, moi, j'adore le fait que tu dises qu'on voit pas forcément nos croyances, parce qu'en fait, je donne toujours, je sais pas si tu m'as déjà entendu dire ça, je donne toujours l'exemple du poisson rouge dans le bocal. Le poisson rouge qui est dans son bocal et il y a l'eau autour de lui, bah nous, c'est pareil, en fait. Lui, il voit pas l'eau qui est autour de lui, parce qu'il est dans le bocal. Bah nous, c'est pareil. On est dans notre corps, on est dans notre petit bocal, et donc on voit pas les croyances limitantes qui peuvent nous déranger. Et c'est tout l'intérêt aussi de raccompagner, effectivement.
Trop bien. Ben, je pense que ça va servir aux auditeurs et aux auditrices, mais aussi ça me sert à moi, parce que, tu sais, il y a vraiment ces croyances-là où, ben non, t'es pas capable, tout ça. Ben voilà, les petites visualisations que tu donnes, je vais les mettre en pratique et je t'en dirai des nouvelles.
C'est une super chose. Et aussi, moi, ce que j'entends souvent, c'est dans un premier temps, je vais faire du bénévolat ou des choses gratuitement pour me sentir plus légitime.
Ouais.
Tu vois, c'est toujours un truc qui m'a posé question, parce que j'ai eu des personnes, hein, même en psychologie, qui sortaient de la fac de psycho et qui faisaient des choses gratuitement ou sur le bénévolat ou dans des services, tu vois, des services d'État où c'est l'État qui paye et tout. Et ça me pose toujours question, parce que en fait, tu vois, il y a l'équilibre entre donner et recevoir. Tu donnes quelque chose, même si t'es débutant dans cette chose, de toute façon, t'accompagneras toujours des gens qui ont besoin de toi, qui, tu vois, si on les met sur ton chemin, si l'univers les met sur ton chemin, c'est que quelque part, ils ont besoin de toi et t'es la bonne personne pour eux. Et donc, tu donnes quelque chose, mais s'il n'y a pas l'énergie de l'argent en retour, tu donnes sans recevoir, ce qui est déjà pas très bon dans cette logique qui est importante au niveau énergétique. Et moi, je trouve que je me suis sentie légitime dès l'instant où je me suis fait payer, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est très important, moi, je trouve, à soulever, parce que je vois trop de personnes dire « bon, bah je vais faire des essais avec des gens, ne pas être payé ». Et en fait, c'est quand tu te sens payé plusieurs fois, où tu te fais payer pour ce que tu donnes, comme énergie, où justement tu vas te sentir de plus en plus légitime. Donc, ne pas sous-estimer ça aussi, où je peux voir parfois ça, c'est pour ça que je le souligne là.
C'est comme si, tu vois, le fait de le faire gratuitement, ça permettait de se mettre moins la pression, en se disant finalement les gens ils attendront moins en retour parce qu'ils n'ont pas payé. Je ne sais pas si tu vois.
Moi, je me dis, ils s'investiront autant.
Ouais.
Tu vois.
C'est vrai. Et puis, c'est Pêche qui dit beaucoup que finalement, se faire payer, c'est aussi se donner de la valeur et accepter qu'on a de la valeur.
Tellement. Parce que, alors peut-être qu'il y a le truc d'un moment se donner la pression et je ne sais pas. Parce que moi, très honnêtement, je mets autant d'intention quand je suis en bénévolat, mais c'est pour le plaisir, le bénévolat, tu vois, que quand je me fais payer. Et comme dit Pêche, en fait, c'est vraiment ça. C'est quand tu te fais payer, tu reçois la valeur que t'as donnée. Donc, si tu donnes tout le temps sans recevoir, sans te faire payer, comment veux-tu te sentir légitime?
Ouais.
C'est important d'en parler, parce que il y a trop de personnes, surtout dans le domaine du bien-être et tout, qui veulent commencer gratuitement. Et en fait, ce n'est pas honorer sa valeur. Et quand on met quelqu'un sur votre chemin, même si vous êtes débutant, cette personne-là, elle est venue pour vous et ce que vous avez à offrir, et vous avez quelque chose à offrir. Sinon, on l'aurait pas mis sur votre chemin.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est toujours important de revenir aux fondations et consolider, voilà, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi.
Totalement.
Bon, ben, trop bien, Lou. J'aimerais te poser quelques questions, des questions coup de cœur. Alors, la première question, c'est: est-ce que tu aimerais nous partager un livre qui t'inspire beaucoup et qui t'a marqué sur ton chemin?
Bah, en fait, c'est pas un livre de dev perso, c'est Les Demeurés. Tu vois, rien que d'en parler, ça fait des petites choses encore, mais Les Demeurés, ouais. C'est l'histoire d'une mère avec son enfant et elle est poignante, cette histoire. J'en dis pas plus parce que je pense que les personnes qui liront, elles doivent tomber sur ce livre, donc voilà.
Mais tu vois, Lou, c'est intéressant parce que ces dernières années, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et là, depuis quelques mois, depuis cette année, je me remets à lire des romans. J'avais perdu l'habitude d'en lire, et je trouve que vraiment, dans les romans, on peut aussi avoir des prises de conscience énormes, quoi. Ça peut vraiment venir nous chambouler et venir nous toucher et nous éveiller sur certaines choses. Donc, je trouve que, tu vois, même les livres qui ne sont pas dits de développement personnel peuvent vraiment avoir un impact sur notre vie.
Mais totalement. Moi, tu sais, on me demande souvent, mais est-ce que t'as un livre pour ça? Et encore ce matin, on m'a écrit en MP, on me demandait, est-ce que t'as un livre pour ça? Et moi, je dis tout le temps, mais apprenez de votre histoire, en fait. Je lis plus de livres de développement personnel, hein. Comme tu dis, moi, je lis des romans. Après, les livres que je lis, sinon, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de m'ouvrir, comme l'astrologie, etc. Mais voilà, plus du tout de livres, enfin, de développement personnel pour l'instant.
Ouais, mais je comprends. Après, c'est vrai que peut-être ça fait partie aussi du chemin, que parfois t'as besoin de te plonger dans des livres de développement personnel et ensuite voilà de les lâcher et de vraiment faire l'expérience plus dans la vie.
Totalement.
Deuxième petite question, est-ce qu'il y aurait une personne que t'aimerais nous partager et qui t'inspire beaucoup et qui pour toi représente voilà vraiment cette idée de suivre les élans de son cœur?
Autant dire une qui en ce moment me touche beaucoup et qui suit les élans de son cœur. Encore hier, je regardais une story. Tiffany Garrido. Et elle parle beaucoup de ses élans du cœur et en tout cas, elle les suit. Et moi, c'est vrai que c'est beaucoup ce que j'essaye de transmettre à travers mon histoire, ce que je raconte sur les réseaux sociaux, à travers mes stories. Suivre juste ce qui me fait vibrer. Et je remarque qu'elle fait pareil, donc j'adore.
Bah écoute, c'est super et c'est tellement en accord avec l'idée du podcast de suivre ses élans du cœur. Donc, trop bien. Et dernière petite question, est-ce que en ce moment, t'as un appel du cœur qui t'anime?
Alors, moi, j'arrête pas d'entendre. Tu vas faire de la poterie, tu vas faire des objets. Les élans du cœur peuvent être parfois tellement non logiques et donc du coup ça peut vraiment nous mettre un peu en porte-à-faux en mode ah ouais bon ça va me sortir un peu de ma zone de confort mais d'accord. Donc ouais en ce moment c'est beaucoup ça, beaucoup la création, même mon jardin beaucoup tu vois les mains dans la terre et tout. En ce moment là c'est beaucoup ça.
Mais de toute façon je pense que ce soit la poterie mais comme tu dis mettre les mains dans la terre, connecté à la terre, quoi. Je pense qu'actuellement, c'est important. Donc, franchement, trop bien.
Et hier encore, mon corps me disait j'étais fatiguée et j'avais mal un peu de partout. Et je suis très attentive à ça parce qu'en fait, notre inconscient nous parle à travers ça. Et quand t'as des, un peu des erreurs d'estomac, quand t'as mal à certains muscles, quand t'es tendu au niveau des épaules, de la gorge et tout, et que t'es fatiguée, ton corps te dit un peu, ton inconscient te dit un peu, faudrait que tu fasses quelque chose, quoi. Et du coup, je me suis mise dans mon bain et j'ai écrit un peu. Et en fait, c'était vraiment ça. C'était « tu m'écoutes pas, quoi. Je te dis de faire des choses, tu m'écoutes pas, tu restes dans tes trucs que tu fais d'habitude. Et moi, j'ai envie de faire ça. Donc, vas-y. » Donc, hier, je me suis dit « bon, il faut vraiment cette semaine, avant la fin de la semaine, je pose l'action. Je sors de ma zone de confort, comme on a dit tout à l'heure. Je pose l'action. » De prendre ses cours une bonne fois pour toutes.
Non, c'est trop bien. De se reconnecter à la création, ça permet de sortir de sa tête et de reconnecter voilà, avec son corps, avec sa créativité. Et ça fait beaucoup de bien. Est-ce que, avant de finir, t'aimerais partager peut-être un dernier message aux personnes qui nous écoutent?
Ouais, je sais que ça peut être douloureux. Je sais que ça peut être pas forcément fluide, pas forcément attrayant. Mais c'est tellement important de suivre les élans du cœur, tu vois. C'est tellement important de se dire qu'est-ce qui est lourd, qui ne vibre plus, de le laisser et de faire de la place à ce qui vibre pour nous. En fait, c'est ça l'énergie vitale. Hein. Si vous ressentez parfois des moments de fatigue ou quoi, c'est qu'il y a un tri à faire. Et en fait, on est de passage. On est tellement, tellement de passage. Même si moi, je crois en incarnation et qu'on aura d'autres incarnations, mais... En tout cas, l'incarnation présente, on est de passage, c'est si court. Donc, il faut faire ce truc-là. Et plus on fait, plus on va vers les élans de son cœur, plus ça devient fluide, plus ça devient naturel. Et après, on peut pas fonctionner autrement. Donc, je sais que c'est une autre façon de penser. Donc, vraiment, je peux que vous inviter à vivre ça.
Ouais. Et tu sais, rejoindre voilà cette danse un peu de la vie qui nous fait aller vers des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, la preuve, voilà, la poterie, pourquoi pas. Mais voilà, suivre un peu cette fluidité que la vie nous propose. Et si parfois c'est très douloureux, juste se poser, pleurer un bon coup si on a besoin, crier un bon coup, laisser partir, comme tu dis, se libérer de ce qui nous pèse, de ce qui est présent mais qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vraiment faire sortir ça, limite comme un enfant, tu sais, tu pleures un bon coup et ensuite tu reprends voilà la danse de la vie et tu recommences à suivre ce qui te fait vibrer et comme tu dis, parce que t'as créé de l'espace, peut de nouveau te mettre en mouvement vers ce qui te tient vraiment à cœur.
Tellement. Ça demande un peu de deuil, hein, de laisser partir ce qui vibre plus. Mais ça donne tellement d'énergie. Je peux que vous inviter à le faire.
Bon, ben super, Louis. Écoute, on va finir là. C'était super. Merci beaucoup. Pour te retrouver, ça se passe sur Instagram, c'est ça?
Ouais, sur Instagram. J'ai aussi, dans le lien de ma bio Instagram, j'ai aussi mon site internet. Et puis, j'ai une newsletter aussi où j'écris des lettres inspirées. Donc, c'est vrai que je suis très présente sur Insta.
Bon, ben super. Pareil, je vais mettre tout en description pour pouvoir te retrouver facilement. Il me reste plus qu'à te dire un grand merci.
Merci beaucoup pour cette invitation sur ce très beau podcast. Ça me touche. Merci.
Merci à toi, Lou. Je te souhaite une belle journée.
Merci à toi aussi.
Gros bisous.
Bye bye.
Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange avec Lou vous a plu et qu'il vous aura donné une bonne dose d'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode comme d'habitude autour de vous ou avec une petite story Instagram par exemple. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça permet au podcast de gagner en visibilité et de toucher des cœurs supplémentaires. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à noter le podcast sur Apple Podcasts. Avant de vous laisser, je tenais vraiment à vous remercier de tout mon cœur pour votre écoute et je vous invite à suivre la page Instagram Espace du Cœur pour être au courant des prochains épisodes. On se donne rendez-vous dans 2 semaines aux côtés d'une nouvelle personnalité inspirante. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous et à très vite sur l'Espace du Cœur.